Le feu crépite toujours dans le foyer au centre du petit temple abandonné, mais les tasses de thé sont vides. La boîte de mochi circule de main en main et dans le crépitement des flammes ne sont plus présents maintenant que les bruits de mastication et le chant des insectes nocturnes. Dehors, la nuit est d'encre et l'absence de la lune permet de voir une myriade de petits points piquetés brillants, des étoiles, plus que vous ne pourriez en compter. Certains ont d'ailleurs profité de cette interlude pour sortir fumer une cigarette et admirer le ciel nocturne. Mais très vite, vous voilà à nouveau installé sur les vieux tatamis mangés au mythe. Celle qui va raconter la prochaine histoire se lève. Ses cheveux aux mèches chatoyantes, roses, bleues, mauves, se croisent devant ses yeux, et sa manicure est parfaite. Même le nœud de son yukata à motif de fleurs de prunier est rigoureusement droit. Ses oreilles percées et l'anneau dans son sourcil annoncent la couleur. On sera rock'n'roll. Elle se lève avec énergie, tape deux fois dans ses mains et s'incline, avant de s'asseoir à genoux dans le même mouvement fluide et gracieux. Elle repousse une mèche rose derrière son oreille, regarde chacun d'entre vous droit dans les yeux et sourit, savourant par avance son histoire. Elle prend une grande respiration, vous retenez la vôtre, et elle entonne la formule rituelle.
Mukashi mukashi, hyakki yako.
Les comptines ont toujours existé depuis que l'homme sait parler. Tantôt drôles, tantôt grivoises ou sérieuses, elles veulent faire passer des messages, parfois vieux comme l'humanité. Que ce soit de se méfier de certains animaux ou de certaines personnes, de ne pas s'approcher de l'eau ou de profiter de la vie, il y en a pour tous les goûts. Cependant, certaines d'entre elles sont sombres, beaucoup plus sombres, et peuvent vous faire frémir jusqu'au plus profond de votre être. C'est de l'une d'entre elles, une Warabe Uta venue tout droit de l'ancien Japon que j'aimerais parler. Elle se nomme Kadze no Sasayaki, qui veut dire « murmure du vent » et date de l'époque Sengoku. Alors rapidement, l'époque Sengoku, ça se situe entre 1477 et 1573, et c'est une période assez sombre de l'histoire japonaise. Entre guerres, troubles militaires et conflits, la vie n'est pas toujours rose, surtout à Kyoto où une guerre civile éclate, la guerre d'Onin. C'est une guerre entre deux familles, les Yamana et les Osokawa, qui met le pays à feu et à sang pour finir par provoquer l'épuisement des forces en présence et une grande famine dans la région. Côté positif, c'est aussi l'essor du zen. La construction des châteaux forts japonais comme celui d'Imeji, du fameux Ginkakuji, le pavillon d'argent, de la culture et de l'arrivée du Chanoyu, la cérémonie du thé. Voilà en gros résumé la période Sengoku, sombre mais en plein essor culturel. La légende dont je veux vous parler nous provient de la région de Kyoto. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kyoto est situé au centre de l'ouest de l'île de Honshu, l'île principale du Japon, dans la région du Kansai. Elle est entourée par des montagnes, avec à l'est le lac Biwa, le plus grand lac d'eau douce du Japon et probablement l'un des plus profonds. Un jour, je vous parlerai peut-être des créatures qui la peuplent, mais ce n'est pas le sujet de la légende d'aujourd'hui. Cette histoire nous vient donc de la région de Kyoto, où les premières occurrences de cette comptine ont été trouvées. Elle possède plusieurs variantes, mais toutes focalisent sur un point central. Ne jamais sortir par les nuits devant sous peine de mourir. D'ailleurs, avant de commencer mon histoire, je vais vous la présenter, cette comptine. Cette Warabe Uta, qui se nomme Kadze no Sasayaki, soit le murmure du vent.
Yoru kaze no uta ni kikoeru. Kiken na koe ni ki o tsukete. Sore ga kikoeru yoru no uchi ni tachi sareba. Asa ni wa kiri kizamareru.
Traduite en français, ça donne: méfiez-vous du murmure perfide qu'on entend la nuit dans le chant du vent. Si vous l'écoutez et que vous partez dans la nuit, au matin vous serez découpé. Imaginez le lac Biwa, le plus grand lac du Japon et qui a une forme rappelant l'instrument de musique du même nom. C'est un lac entouré de montagnes, parsemé de villages difficiles d'accès. Il faut parfois plusieurs jours de marche pour y parvenir et seuls quelques rares colporteurs, moines et médecins prennent la peine d'aller jusque-là. Sur l'une de ces montagnes, La montagne Mitekoyama, qui culmine à 970 mètres, se trouve un petit village nommé Kusomura. Il est niché sur un plateau. Il faut imaginer une dizaine de maisons en bois aux toits de chaume reliées par des sentiers de terre tassée. Une barricade en bois, plus là pour empêcher les bœufs de s'éloigner pendant la nuit que véritablement défensive. Kusomura est entouré par la forêt avec quelques champs, des rizières et des pâturages où les bœufs paissent en toute tranquillité. Difficile d'accès, vivant en autarcie, il est épargné par la guerre qui fait rage dans le reste du pays. Si les adultes en sont au courant via les différents marchands qui montent jusque-là, les enfants n'en savent rien. En parlant d'enfants, ils sont une quinzaine à Kusomura. Depuis les bébés qui tiennent à peine assis, jusqu'aux grands ados. Courant dans tous les sens, en toute insouciance. Et parmi ces enfants, il y a des jumeaux, nés lors d'une nuit d'automne particulièrement venteuse et orageuse. Une fille, Chiako, et un garçon, Chiaki. Ils ont les mêmes cheveux noirs, les mêmes yeux mordorés, le même sourire en coin. Et avec eux, trois gamins qui composent leur groupe d'amis. Dès qu'ils ont l'occasion de s'échapper, une fois les corvées finies, ils se retrouvent à l'entrée du village et vont courir dans la forêt. Suivant la saison, ils attrapent des insectes, pêchent dans le ruisseau tout proche, surveillent le bétail. Ils s'inventent mille et un jeux et tentent de retrouver les mystérieuses créatures dont les vieilles Obasan leur racontent des histoires au coin du feu. Le kappa dans les rivières ? Amefurikozo, cet enfant de la pluie, portant lanterne et parapluie et avec lequel il ne faut pas jouer, sous peine de voir la pluie s'installer. Les Tengu, les Oni et tous ces fantômes qui vivent parmi nous mais que seule une poignée d'initiés peuvent voir. Comme tous les enfants, ils ont beaucoup de liberté et quelques précautions à prendre. Particulièrement vis-à-vis des animaux sauvages qu'ils peuvent croiser. Si un tanuki c'est mignon, un ours ça l'est nettement moins et ça pourrait facilement les mettre en pièces. Il y a aussi des endroits interdits, comme les sanctuaires abandonnés, ou les pierres et les arbres entourés de shimenawa, ces fameuses cordes tressées dressant le domaine d'un kami, ou encore les lieux entourés de gohei, ces papiers blancs en zigzag qui protègent les démons ou autres entités. Bien sûr, elle interdit les tentes. Surtout quand on a à peine 8 ans et qu'on veut vivre le grand frisson. Alors un beau jour d'été, alors que le vent chantonnait dans les arbres, que les grillons remplissaient l'air de leur stridulation, ils se sont enfoncés dans la forêt jusqu'au vieux sanctuaire abandonné. Un bâtiment de bois, au toit de tuiles à moitié éventré. Une corde tressée fait le tour du temple à environ 3 mètres de distance de l'édifice. Des shidés sont présents aux quatre coins cardinaux, signe que l'endroit est protégé. Les enfants se regardent à quelques pas du lourd cordon. Le vent joue dans leurs cheveux et les corbeaux croissent au loin. Les insectes bourdonnent toujours autant. Chiaki, un peu plus courageux que les autres, regarde sa sœur droit dans les yeux, une lueur de défi dans les siens.
Ah, allez, tu viens ? On va leur prouver que c'est nous les plus courageux.
Mais tu es sûr ? C'est interdit ?
Oh, il n'y a rien à craindre, voyons. Allez, les poules mouillées, en avant !
Il avance d'un pas, se compose un air un peu plus assuré et fait les quelques foulées qui le séparent du Shimenawa. Il prend une grande respiration et enjambe. Aussitôt, sa sœur le suit, les trois autres sur les talons. Une fois de l'autre côté, il regarde autour d'eux. Un malaise indéfinissable s'est emparé d'eux. La sueur commence à couler sur leur front, le long de leur dos. L'air est comme pâteux, lourd. Un silence de mort les entoure, et les pas qu'ils font sur les feuilles mortes semblent comme étouffés. Le soleil qui jouait jusque-là dans les ramures des arbres a disparu. Une brune fine monte du sol tandis qu'un froid glacial les fait frissonner. Mais pas question pour autant de reculer. Courageux, ils avancent jusqu'au bâtiment en ruine. Se mettent à plusieurs pour déplacer la lourde porte tombée de guingois, pour enfin entrer dans le sanctuaire. Plissant les yeux dans la pénombre, ils montent les quelques marches qui les séparent de la pièce centrale. Sous leurs pieds, les planches en bois craquent à chaque pas qu'ils font. Ils arrivent au milieu de la chambre. Quelques marches mènent à une estrade peinte en rouge dont la peinture écaillée montre le poids des années écoulées. Estrade, elle aussi entourée de la corde et des papiers protecteurs des sanctuaires. Sur celle-ci, une forme surélevée, ronde, les intrigue. Les enfants s'approchent, montent les marches et arrivent devant un puits en pierre sombre, qui semble avaler le peu de lumière qui parvient jusqu'à lui. Il passe par-dessus la corde et se dirige vers la margelle. Chiako est la première à se pencher dessus. Elle plonge le regard dans un vide insondable. Se penche un peu plus pour voir mieux. Un vent violent venu du gouffre manque de la faire trébucher et tomber tête première dans les entrailles de la terre. Une pince se détache de sa chevelure et tombe dans le puits sans fond, sans un bruit, tandis que sa chevelure lui fouette le visage. Son frère la rattrape juste avant qu'elle ne bascule dans le trou.
Eh bien, on peut dire que t'as eu chaud, hein. Un peu plus et tu rejoignais le royaume d'Emma plus tôt que prévu.
Ouh, c'est bien toi la plus courageuse en tout cas, bravo.
Tous rigolent nerveusement, mais Brave se rapproche. Ils sont maintenant tous penchés au-dessus de la margelle. C'est une question de courage, de ne pas montrer sa peur face au vent glacé qui monte du plus profond du puits. Un vent de plus en plus puissant, sifflement qui semble murmurer des choses à leur oreille. Les enfants se regardent, effrayés.
Tu as entendu quelque chose ?
Non, non, rien du tout. Et toi ?
Moi, non. Enfin, je sais pas.
Mais cet endroit est vraiment trop effrayant. Je veux rentrer maintenant.
Un puissant coup de vent froid comme la mort vient les envelopper et une odeur atroce de chair rance, putride, monte des entrailles de la terre, mettant fin aux dernières brides de courage qu'il leur restait. Vite, vite, ils s'écartent du puits et se mettent à courir, sautent l'un après l'autre par-dessus la corde magique. L'un d'eux se prend les pieds dedans, se raccroche au talisman pour tenter de ne pas tomber, mais les déchire dans sa chute, avant de s'étaler de tout son long. Il se relève en se frottant les genoux, terrorisé à l'idée de se faire distancer par les autres et de rester seul dans ce temple macabre. Aucun d'eux n'a remarqué la corde rompue, ni la noirceur qui monte du puits, telle de l'eau remontant de la terre, et qui s'avance prudemment vers le Shimenawa, avant de passer lentement la frontière ainsi brisée. Ils sont déjà loin quand ce vent noir et brumeux sort du sanctuaire, faisant volter les feuilles mortes, puis passer la frontière entre les autres mondes et le monde réel. Dans la montagne, les oiseaux chantent, insouciants. Ours et renards chassent le gibier. Le tourbillon sombre s'approche d'un renard à l'entour. L'animal glapit. Le vent vrombit. Bientôt, ne reste plus que fourrure, lambeaux de chair et morceaux d'eau à la place du petit animal. De retour chez eux, les enfants n'ont évidemment rien dit. D'ailleurs, depuis leur escapade, les adultes semblent les ignorer. Ils ont bien entendu des cris quand ils sont rentrés. Beaucoup trop tard, apparemment. Mais depuis, plus rien. Ils se terrent, restent toujours ensemble. Et la nuit, dans la moiteur de ces nuits d'été, ils sont cinq à faire des cauchemars horribles. À rêver qu'ils se font dévorer par une entité, et pire encore. Le temps passe et les voilà maintenant amaigris, pâles et avec d'énormes cernes. Ils sursautent pour un rien. De leur côté, les adultes se plaignent du gibier qui devient moins nombreux, des bêtes qui disparaissent et dont on retrouve parfois des morceaux macabres. Ils se murmurent qu'un ours particulièrement violent et vicieux serait le coupable. Les Oba Hassan, ces vieilles grand-mères, scrutent le groupe des jumeaux, leurs yeux perçants plongeant jusqu'au cœur de leur âme. Mais ils sont forts, et ils résistent à l'interrogation muette des anciennes. Et chaque nuit, les enfants entendent le murmure du vent. Chiako et ses amis y entendent une promesse de mort violente, lente et douloureuse, une agonie pour le corps et la disparition de l'âme. Il va bien falloir en parler aux anciennes à un moment, trouver le courage d'avouer leurs bêtises, mais pas maintenant. Non, maintenant ils ont trop peur. Parce que peu à peu, ce sont tous les enfants du village qui, en dormant dans les chaudes nuits de ce début d'automne, entendent les murmures du vent. Mais pas celle violente et prometteuse de mort du groupe des jumeaux, non. Eux, c'est une autre mélodie qu'ils entendent. Une chanson suave, douce, qui leur promet monts et merveilles pour autant qu'ils viennent les rejoindre là-bas, dans la forêt, au plus profond de la nuit. Bien sûr, ils en parlent à leurs parents, qui rigolent, parlent d'une imagination trop généreuse. Les vieux les mettent cependant en garde. Les yokai rôdent, surtout pendant les nuits étouffantes comme celle-ci. Il s'agirait de ne pas les écouter, sinon on est perdu, pour toujours. Les Obasan font promettre de ne jamais écouter les promesses du vent, que c'est courir à sa propre perte et que les démons sont partout. Alors les enfants écoutent les anciennes et se bouchent les oreilles en allant dormir. Les adultes, par contre, malgré tout le respect qu'ils ont pour leurs aînés, haussent les épaules. Comme si on pouvait entendre autre chose que les sifflements du vent quand celui-ci souffle. Et le temps passe. L'automne laisse doucement place à l'hiver et à ses premières neiges. Dans la nuit, les adultes se tournent et se retournent dans leur lit. Certains, en proie aux insomnies, observent la montagne blottie dans leur futon, et écoutent les cris de la nuit. D'autres dorment du sommeil de celui qui a travaillé dur toute la journée. Et dans la nuit piquetée d'étoiles, c'est comme si une seule respiration endormie montait du village. Et puis, les murmures du vent parviennent aux oreilles du premier, dans une brise chaude. Ses promesses sont incandescentes et agréables. L'homme, tel un automate, se lève et suit la lente mélopée qui lui susurre des idées de paradis. Pieds nus, il sort, laissant des empreintes dans la neige fraîche qui crisse sous ses pas. Il quitte le village, longe le chemin et puis se perd dans les bois. Là, le vent l'entoure, entièrement. D'abord doucement, brise chaude, bienvenue dans la froideur de la nuit. Elle agite ses vêtements, ses cheveux. Langoureuse, elle l'entoure, tel un baiser immense. Il gémit. Puis, elle se fait plus intense, ses caresses deviennent rugueuses et le sang perle. Il ouvre la bouche, crie. Mais le son est emporté dans la spirale infernale de ce vent maudit, qui prend son essor, lamine sa chair. De chaud, il devient glacial. L'homme ferme les yeux, très fort. Des larmes perlent sous ses paupières, mais la pression du vent l'oblige à les rouvrir. Et le vent en profite. Frivole, il assèche, dessèche les globes oculaires qui deviennent rouges, enflés, avant de crever et de couler sur le visage meurtri, d'où des lambeaux de peau se détachent. Goulûment, le vent avale chair et yeux. L'homme hurle, mais aucun son ne sort de ses lèvres lacérées. Ses vêtements déchirés par les bourrasques, sa peau mise à nu bientôt laminée et couverte de traînées de sang, laisse apercevoir les muscles rouges et les tendons blancs et luisants. Les viscères se déroulent, avalés par la tempête déchaînée, et bientôt à leur tour disparaissent, laissant la place à l'ivoire des os. Le vent se sustente, faisant craquer les os, extrayant la moelle. Bientôt, il ne reste que quelques lambeaux du pauvre malheureux. Au petit matin, constatant sa disparition, tout le village se met à sa recherche. Suit les traces de pas, jusqu'à ce qu'elles disparaissent, mystérieusement. On ratisse la forêt, on crie son nom, mais on ne trouve trace de lui nulle part. Si les premiers jours, il se murmurait sous le manteau que c'était une fugue amoureuse, on se rend compte bien vite que ce n'est pas le cas. Et jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de nouvelles personnes disparaissent. Hommes, femmes, des adultes en pleine santé, des gens sans histoire. La voix du vent devient plus forte et le nombre d'adultes dans le village diminue. Les habitants se cachent chez eux, ferment leurs portes à double tour, mais rien n'y fait. Chaque fois qu'ils soufflent, le vent maudit prend son tribut. L'été réapparaît avec ses nuits chaudes et étouffantes. Et toutes les nuits, les enfants entendent le chant du vent. Et toutes les nuits, ils mettent en application les conseils reçus. Ils se bouchent les oreilles et fuient la voix cajoleuse du vent. Mais une nuit, l'un d'eux cède. Et c'est la première disparition d'enfants. Lors d'une nuit sans lune, un peu comme celle-ci, il s'est levé de son lit. Titubant, il a ouvert la porte de sa maison et pieds nus a avancé le long du chemin. Devant lui, le vent lui susurrait de belles promesses. Une vie meilleure, un royaume, l'assurance de ne jamais aller à la guerre. L'un après l'autre, ses pas le rapprochent du sanctuaire maudit dans la forêt. Il avance, ne sent pas sous ses pieds le changement entre les feuilles mortes de la forêt, l'humidité de la brume devant le temple et les planches brutes du plancher en bois. Et il ne sent pas non plus la corde sur laquelle il marche. Il arrive devant l'estrade, monte les quatre marches qui le séparent des pierres sombres. Avec un peu de difficulté, il se met debout sur le bord du puits. Il lève les deux bras, tendus comme s'il s'apprêtait à s'envoler. Une bourrasque violente l'entraîne et personne ne voit son corps tomber dans le trou sans fond, déchiqueté, démembré par les ricanements du vent. Un à un, tous les enfants du village disparaissent. Les parents ont beau les attacher, les veiller pendant toute la nuit, au petit matin, il ne reste que des futons vides. Et l'hiver, des pas dans la neige qui disparaissent dans la forêt. Bien sûr, cela a pris quelques années. Mais bientôt, il ne reste que les jumeaux et leurs trois amis, prostrés, épargnés de l'étrange attirance de la voix du vent, dont ils entendent la vérité et la mort qu'il promet. Un village sans enfants est un village mort. Les adultes restants, les vivants, ceux épargnés par la malédiction, sont partis depuis bien longtemps. Ne reste qu'une très vieille Obasan et cinq enfants incapables de grandir. Les bâtiments tombent en ruine et tous les soirs, la vieille chante en une comptine qu'ils ont appris à connaître. Méfiez-vous du murmure perfide qu'on entend la nuit dans le chant du vent. Si vous l'écoutez et que vous partez dans la nuit, au matin vous serez découpé. Obasan est dans sa maison et pose au centre du foyer la dernière bûche qui lui reste d'une main un peu tremblante. Il fait nuit et dehors la tempête fait rage, envoyant des rafales de neige jusqu'au pied du futon. Assise, elle regarde de ses yeux qui ne voient plus que l'obscurité depuis bien longtemps le groupe des enfants.
« Eh bien, mes pauvres petits, vous aurez été décidément aveugles jusqu'au bout, plus aveugles que moi-même. Allez, il est temps d'y aller à présent. Venez avec moi. »
Sur ces mots, elle s'allonge, sa respiration sifflante ralentit, jusqu'à n'être plus qu'un souvenir. Chiako et ses amis réalisent à ce moment-là qu'ils sont morts, morts il y a des années, morts ce jour-là devant le puits. Rassemblés autour du corps de la défunte, leur contour se fait un peu flou, comme s'ils se dissolvaient dans la brume et le froid. La gorge serrée, ils se regardent disparaître lentement. Kusumura n'est désormais plus peuplé que de fantômes errants, il est oublié par l'histoire.
Chaque année, près de 9000 personnes disparaissent sans laisser de signe de vie dans la préfecture de Kyoto. Parmi ceux-là, combien ont été dévorés par le vent ? Méfiez-vous, voyageurs qui passez dans la région de Kyoto, et plus particulièrement à proximité de Minetokoyama. Si vous entendez le murmure enjôleur du vent, ne le suivez pas. Vous risqueriez de devenir sa prochaine victime.
La bûche s'écroule dans un crépitement de flammes, faisant sursauter tout le monde, vous y compris. Et vous voilà de retour dans ce sanctuaire abandonné, qui ressemble peut-être un peu trop à celui de cette dernière histoire. Il vous semble d'ailleurs sentir un relent un peu putride. Et tout d'un coup, vous ne vous sentez plus aussi rassuré qu'au début. La conteuse en tout cas se lève, un sourire narquois sur les lèvres et s'en va souffler une nouvelle bougie. La quatrième. Yeah.